Radio Prague, les informations. Bonjour. Selon le président de la République, Václav Klaus, toute l'Europe est responsable de la crise de la zone euro. Les députés examinent ce mercredi le projet de budget pour 2012 et puis enfin une pétition a été remise à la mairie de Prague contre le déménagement de l'épopée slave d'Alphonse Mucha. On commence donc avec de la politique. Selon le président de la République, Václav Klaus, c'est toute l'Europe et non pas la Grèce qui est responsable de l'actuelle crise au sein de la zone euro. À la veille du sommet des pays du G20, réuni ces jeudi et vendredi à Cannes, le chef de l'État a défendu la Grèce et pointé du doigt la politique financière de l'ensemble de l'Union européenne, notamment ses dépenses qu'il estime exagérées. Des prêts énormes ont été octroyés de manière irresponsable à la Grèce, a notamment déclaré Václav Klaus, en ajoutant que la Grèce n'a pas adhéré à la zone uniquement de son initiative. Quelqu'un a tout de même dû accepter son entrée dans le système de la monnaie unique, a précisé Václav Klaus. Lundi, le premier ministre grec Georges Papandréou a surpris les dirigeants européens par l'annonce d'un référendum sur le plan de sauvetage de la Grèce. Politique toujours, la Chambre des députés examine ce mercredi le projet de budget de l'État pour 2012. Le montant de son déficit doit s'élever à 105 milliards de couronnes, environ 4 milliards 300 millions d'euros, soit 3,5% du produit intérieur brut. Comme annoncé en début de semaine par le ministère des Finances, la croissance de l'économie tchèque se ralentira au cours de l'année prochaine et ne dépassera pas 1%. Le Premier ministre Petr Nečas a indiqué que le budget 2012 serait révisé en fonction des pronostics publié en janvier prochain. Les opposants au déménagement à Prague de l'épopée slave, œuvre monumentale du peintre Alphonse Mucha, ont remis ce mercredi soir à la mairie de Prague une pétition réclamant le maintien des tableaux à Moravský Krumlov, une petite ville où ils sont exposés depuis plusieurs années. Ensemble de 20 tableaux retraçant les grands moments de l'histoire des peuples slaves, l'épopée slave fait l'objet depuis de longs mois d'un important litige relatif à ses droits de propriété entre Moravský Krumlov, où elle est exposée depuis plusieurs années, donc, et la galerie de la ville de Prague qui souhaite la récupérer. Avant de remettre cette pétition, une centaine de personnes se sont relayées tout au long d'une marche de 310 km commencée vendredi dernier entre Moravský Krumlov et Prague. Une démonstration est également prévue jeudi matin devant la mairie. L'armée tchèque a décidé de rappeler deux de ses soldats opérant en Afghanistan, retrouvés en état d'ébriété il y a quelques jours de cela. L'information a été rapportée ce mercredi par le quotidien Pravo. Les deux soldats opéraient à la base américaine Chank dans la province du Logar. Ils rentreront en République tchèque dans le courant du mois de novembre. Une partie de leur salaire leur sera retirée. Le ministre de la Défense, Alexandre Vondra, a réagi en rappelant que toute consommation d'alcool était interdite et que les militaires étaient tenus de la respecter. 35 vins de poèmes et essentiellement de Moravie figurent dans l'édition 2012 du livre français Vinali International, 1000 vins du monde, publié aux éditions Hachette. Il s'agit d'un nombre identique à celui de l'année dernière, souvent appelé le guide des Vinali. Cet ouvrage est l'œuvre de l'Union des œnologues de France. Il reprend la sélection issue du concours annuel des Vinali International. Une centaine d'œnologues du monde entier dégustent à l'aveugle des vins de 35 pays différents et donc de la République tchèque également, ayant choisi 1000 parmi eux. On termine avec un mot de sport et de football. L'équipe féminine du Sparta de Prague accueillera l'Olympique Lyonnais ce jeudi après-midi en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au printemps dernier, les Lyonnaises, qui composent l'essentiel de l'effectif de l'équipe de France, sont devenues la première équipe française sacrée championne d'Europe. Et puis un mot de météo, aucune évolution notable n'est attendue et la grisaille reste donc de mise dans une large moitié ouest du pays ce jeudi, jour de la fête des Hubert, Hubert en français. De franches éclaircies sont en revanche prévues en Moravie, c'est-à-dire dans l'est du pays. Les températures varient entre 7 et 15 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite qui vous est présentée tout de suite par Magdalena Rozinkova. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme d'actualité de Radio Prague. Nous parlerons aujourd'hui du projet Les Histoires de l'Injustice, dont le but est de faire connaître à la jeune génération les crimes du communisme. La 7e édition de ce projet a été ouverte ce mardi. Ensuite, évidemment, le football, pas de miracle pour le Victoria Plzeň face au FC Barcelone, mardi à Prague, dans la phase de poule de la Ligue des Champions. Dans les chapitres de l'histoire, nous vous en dirons plus sur la colonie tchécoslovaque en France entre 1914 et 1940. Mardi 1er novembre a été donné au cinéma Lucerna à Prague le coup d'envoi de la 7e édition du projet intitulé Příběhy bezpráví, les histoires de l'injustice. Organisé par l'association humanitaire Člověk v tísni, l'homme en détresse, ce projet incite les élèves et les professeurs de l'enseignement secondaire du pays à se plonger ou replonger dans l'histoire de l'ancienne Tchécoslovaquie de la seconde moitié du XXe siècle et à travers le cinéma et des rencontres avec les témoins des persécution communiste.
Just briefly, Mr. We will collect all the necessary information from you here.
Le documentaire « Je n'ai fait mal à personne » dans lequel se confient des anciens agents et collaborateurs de la police communiste STB, un portrait de Pavel Tigrit, une des plus grandes figures de l'exil tchécoslovaque, « Swing Time », un film de fiction sur les faux passeurs d'émigrés clandestins inspirés des événements réels des années 1950. Voici quelques-uns des films proposés cette année au collège et lycée tchèque par l'ONG « L'homme en détresse ». Depuis 2005, année du lancement du projet Les Histoires de l'Injustice, le nombre d'établissements scolaires de tous les coins du pays qui participent a presque doublé et sont à présent 700 à organiser tout au long du mois de novembre des projections de films sur les crimes du communisme, projections suivies de débats avec des historiens, journalistes, anciens dissidents, exilés et prisonniers politiques. Le projet est très apprécié par les professeurs, encore nombreux à hésiter sur la manière la plus appropriée d'enseigner l'histoire contemporaine avec tous les préjugés, stéréotypes, vestiges et blessures qui persistent dans la société tchèque plus de 20 ans après la chute du mur de Berlin. Et pour cause, l'ouvrage « Mythe sur l'époque du socialisme » consacré à la période des années 1970-1980 en Tchécoslovaquie et publié en novembre dernier dans le cadre du projet « Les histoires de l'injustice » a soulevé des réactions controversées. Une raison de plus pour l'homme en détresse de continuer avec un deuxième livre fraîchement sorti, intitulé « Notre normalisation ». Ce livre contient les souvenirs d'une trentaine de personnalités opposées, chacune à leur façon, au régime totalitaire. Les extraits du livre sont publiés tout au long de cette semaine dans le quotidien Lidové noviny. Karel Strachota, directeur du projet, explique.
My neservírujeme nějaký definitivní pravdy, ale máme pocit, že je právě třeba vyvažovat to, co...
Nous n'avons pas l'intention d'imposer au public des vérités définitives. Nous avons juste l'impression qu'il faut équilibrer les propos des gens, très fréquents, qui disent qu'à l'époque, on vivait mieux qu'aujourd'hui.
La 7e édition du projet Les Histoires de l'Injustice est plus particulièrement dédiée à l'émigration et à la vie dans l'exil. Mardi, à l'occasion de son ouverture, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ont remis des prix à 3 combattants contre le régime communiste, prix décerné par un jury des étudiants. Malgré un bon début de match, les joueurs du Victoria Plzeň se sont logiquement inclinés mardi soir à Prague devant le FC Barcelone. Score final 4-0 et les Tchèques devront s'arracher lors de leurs deux derniers matchs en Ligue des Champions pour espérer obtenir un lot de consolation, une qualification pour la Ligue Europa. Retour sur cette rencontre avec Alexis Rosenzweig.
Si Milan Petagela, le milieu de terrain de Plzeň, avait transformé la très belle occasion qu'il s'est procurée alors que le score était encore de 0-0, le match aurait sûrement pu prendre une autre allure. Mais seul devant le gardien du Barça, après une belle échappée en solitaire, il n'a pas réussi à tromper Victor Valdés, qui entre ainsi dans l'histoire du club catalan en réussissant à ne pas prendre de but pendant plus de 824 minutes, un record vieux de presque 30 ans. Après cette occasion ratée, tout s'est enchaîné très vite et les Blaugrana ont pu dérouler leur jeu, comme le regrettait après la rencontre l'entraîneur tchèque Pavel Verba.
Nous avons eu un bon début, le début de l'utkání nous a
On a fait un excellent début de match et ça s'est déroulé comme on le voulait. Le moment clé a sûrement été l'occasion de Peter Zella, qui n'a malheureusement pas marqué. Après, il y a un pénalty sifflé contre nous et en plus un carton rouge. Je ne sais pas s'il est mérité ou pas, mais évidemment, cela a eu un énorme impact sur le reste du match.
Ce carton rouge, c'est le défenseur Tchichovski qui le prend pour une faute sur Lionel Messi dans la surface de réparation. Carton rouge mérité, selon les experts, et qui réduit à 10 des Tchèques qui auraient déjà bien eu du mal à tenir au complet. L'Argentin transforme lui-même ce pénalty, le 200e but pour le Barça de celui qui est à l'heure actuelle considéré comme le meilleur joueur du monde et qui a profité des trous dans la défense pour trouver à deux autres reprises le chemin des filets mardi soir après de jolies combinaisons dans les arrêts de jeu de la première et de la deuxième mi-temps. À noter aussi que c'était le 200e match de Pep Guardiola en tant qu'entraîneur du Barça. Triplé de Messi donc, et même sans Xavi et Iniesta pour tenir le milieu de terrain, les Catalans n'ont rien lâché. Cesc Fabregas, autre star du Barça, a pu marquer de la tête son premier but en Ligue des Champions pour son nouveau club, pour le 2-0. La messe était dite, et malgré la bénédiction de l'archevêque Dominique Duca avant le match, les joueurs de Bohème de l'Ouest n'ont fait que courir après le ballon, comme le constatait amèrement le défenseur František Rajtoral.
Pro mě to byl svátek, že jo, takhle se hrá proti Barceloně, ale když pak běháte bez balónu, jak je to takový.
Pour moi, c'était un peu comme un jour de fête de jouer contre Barcelone. Mais quand vous courez tout le temps sans le ballon, ce n'est pas terrible. Maintenant, le plus important, ça va être le match à Borisov pour décrocher la troisième place du groupe.
Nejdůležitější zápas a tam si to rozhodneme o postupu do třetího místa.
Le prochain match se jouera en effet le 23 novembre en Biélorussie contre le Baté Borisov qui a réussi mardi à faire match nul un partout sur son terrain face au AC Milan. Une victoire permettrait au Viktoria Plzeň de lui reprendre la troisième place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa, avant le dernier match contre les Milanais. Ce sera à Prague le 6 décembre.
Jean-Philippe Namon, agrégé et docteur en histoire, chercheur associé au CNRS, vient de publier aux éditions de l'Institut d'études slaves un ouvrage intitulé « La colonie tchécoslovaque, une histoire de l'immigration tchèque et slovaque en France 1914-1940 ». Au micro de Paul Bauer, il revient sur cette page mal connue de l'histoire des relations franco-tchécoslovaques et nous expose le rôle central joué par les immigrants tchécoslovaques dans la France de l'entre-deux-guerres.
Chapitre de l'histoire. Jean-Philippe Namon, bonjour.
Bonjour.
Alors une première question, qu'est-ce que la colonie tchécoslovaque de France et pourquoi porte-t-elle ce nom de colonie ?
Alors, le terme de colonie s'emploie à la fois pour désigner la fédération d'associations qui existe entre 1914 et 1940 en France, mais aussi pour désigner, à l'échelle locale, dans une commune, l'association tchécoslovaque du lieu, donc la colonie tchécoslovaque d'Argenteuil, celle de Lens, etc. Alors, elle est créée en 1914, à l'été 1914, avec un objectif double. Le premier objectif, c'est d'organiser l'enrôlement de volontaires tchèques au départ, tchécoslovaques ensuite, dans la Légion étrangère française, pour combattre contre l'Autriche-Hongrie, pour libérer la Bohème, puis la Tchécoslovaquie. Et l'autre objectif, c'est d'éviter aux Tchèques qui vivent à Paris, essentiellement, d'être considérés par les autorités françaises comme des ressortissants d'une nation ennemie. Donc il s'agit en fait de leur fournir des cartes d'identité et d'œuvrer pour la protection de leurs biens matériels, pour leur éviter la mise sous séquestre de ces biens.
Est-ce qu'elle parvient à ses objectifs au sorti de la guerre ?
Alors, elle y parvient en fait dès le départ, c'est-à-dire dès l'automne 1914, parce que le ministère de l'Intérieur autorise cette structure à délivrer donc des cartes d'identité. Elle devient une sorte de consulat sans état. À partir de 1915, quand s'organise l'émigration politique avec des gens comme Masaryk ou Benesch, elle est reprise en main, mais elle conserve cette possibilité de délivrer les cartes d'identité. Donc d'emblée, elle le fait, et d'emblée, elle évite également aux Tchèques de France d'être emprisonnés, comme c'était la possibilité.
Et après la Première Guerre mondiale, quel est son rôle en France ?
Alors après 1918, à partir de 1918, elle a une volonté englobante, c'est-à-dire qu'elle se transforme en un réseau qui n'est plus seulement parisien, car les premières associations étaient seulement parisiennes, mais elle travaille à une échelle nationale, c'est-à-dire l'échelle du territoire français, et elle accompagne le flux migratoire qui se développe à partir de 1920. Donc c'est une fédération.
Est-ce qu'on peut dire que cette fédération constitue une sorte d'acteur dans les relations bilatérales françaises et tchécoslovaques ?
Oui, alors c'est comme ça qu'elle s'est elle-même identifiée dès le départ, c'est-à-dire dès l'été 1914, c'est un acteur politique, mais par la suite, elle est un relais dans les années 1920, dans les années 1930, un relais pour l'État tchécoslovaque, c'est-à-dire l'ambassade, les consulats, qui se servent de la colonie, des associations qui la forment, pour recueillir des informations sur les besoins des immigrants et pour distribuer une aide sous la forme de subventions, aide aux travailleurs, aux mineurs, aux enfants, etc.
Vous parliez de flux migratoires. Qu'est-ce qui fait que dans les années 30, après la création de la Première République tchécoslovaque, la France apparaît comme une terre d'élection pour des migrants tchèques et slovaques ?
Alors, l'émigration tchécoslovaque, même avant 1914, est un mouvement long. Il se poursuit à partir de 1918. Il est certain que certains émigrants tchécoslovaques rentrent au pays en 1918, mais d'autres restent en émigration ou partent parce qu'il y a des perspectives de travail, qu'il s'agisse d'autres pays que la France, hein, d'autres pays européens. Et surtout, à partir de 1921, les États-Unis ferment leurs frontières en établissant des quotas. Donc il faut trouver une autre solution pour ceux qui veulent partir. Et la France en est une, puisque en 1920, une convention d'émigration est signée entre les deux pays, qui reprend à peu près les mêmes termes que les deux conventions que la France avait déjà signées en 1919 avec l'Italie et la Pologne. Donc il y a des possibilités et c'est pratiquement la France qui devient le premier pays d'émigration pour les Tchécoslovaques à partir de 1923-24.
Toujours une question sur les migrations. Comment expliquez-vous ce départ de Tchécoslovaques ?
Alors, ça s'explique parce qu'il y a des opportunités en France, c'est-à-dire que les entrepreneurs français ont besoin d'une main-d'œuvre étrangère. Ils font appel à des Italiens, ils font appel à des Polonais, et la Tchécoslovaquie, qui est un pays allié, qui donc a signé cette convention, est une possibilité, est un vivier en quelque sorte pour les entreprises françaises. Donc elles sont très actives pour recruter, et l'État français les aide, puisque à partir de disons entre 1929 et 1934, il y a même une mission d'émigration en Europe centrale qui recrute principalement des ouvriers agricoles depuis Bratislava et qui sont donc des Slovaques. Donc il y a une efficacité en fait de l'État et des entreprises françaises à recruter, et notamment par exemple des spécialistes, des verriers par exemple tchèques.
Est-ce que vous pouvez quantifier ces flux migratoires et comment ces migrations se distribuent sur le territoire français ?
Oui, alors on peut estimer qu'au début des années 20, il y a environ 5000 Tchécoslovaques en France, et on arrive probablement vers 1930-31 à pratiquement 70 000. Alors ce flux confirme le rôle important de Paris et la région parisienne. Il y avait beaucoup de Tchèques parisiens avant 1914. Il y a maintenant en banlieue beaucoup d'ouvriers slovaques notamment, et par exemple il y en a à peu près 1500 vers 1931 à Argenteuil, la région Argenteuil-Gennevilliers. Pour le reste, on voit apparaître l'Est, c'est-à-dire la Moselle, le Nord-Pas-de-Calais, essentiellement dans la région de Lens, et puis quelques communes comme Vianne dans le Lot-et-Garonne, la Grand-Combe dans le Gard, et puis une dispersion pour le reste d'ouvriers agricoles un peu partout dans les régions françaises.
Une fois la Tchécoslovaquie créée en 1918, les objectifs de la colonie atteints durant la Première Guerre mondiale, comment expliquez-vous le maintien de cette fédération dans la France de l'entre-deux-guerres ?
Eh bien, après 1920, elle va effectivement mener une action essentiellement sociale. C'est-à-dire que les besoins des immigrants tchécoslovaques sont grands. Ils ont d'abord besoin de conseils, par exemple, parce qu'ils arrivent dans un pays dont ils ne connaissent en général pas la langue. Ils ont besoin aussi qu'on pourvoie à leurs besoins en cas de maladie, de période de chômage. Éventuellement, il peut s'agir de payer des enterrements, ce genre de choses, hein. Et puis, la colonie va aussi beaucoup s'occuper des enfants. Par exemple, pour leur payer des vacances ou des excursions, mais aussi pour créer des classes, des écoles tchécoslovaques qui vont se former dans les lieux où il y a concentration importante. On va aussi, par exemple, organiser toute une action culturelle pour monter des pièces de théâtre, pour organiser des soirées communes, etc.
Quelle est la situation de ces fédérations au moment de la disparition de la Tchécoslovaquie en 1938 ?
Alors, pour ce qui est de la situation en France, il y a une situation qui est peut-être un peu particulière, dans le sens où l'ambassadeur Ossouski, à partir de 1939, c'est-à-dire de mars 1939, quand la Tchécoslovaquie n'existe plus, reste ambassadeur tchécoslovaque et confirmé par les autorités françaises dans ce rôle. Et la colonie tchécoslovaque est pour lui un pilier, une fédération qui reste très active et qui surtout veut jouer en 1939 le rôle qu'elle a joué en 1914 et pense elle-même en 1870, parce que déjà en 1870 il y avait eu une action militaire. Donc 1870, 1914, 1939, trois moments pour œuvrer politiquement, militairement. Et cette colonie donc se montre très active, notamment par une propagande très forte.
Quel est son destin durant la Seconde Guerre mondiale ?
Alors, avec la débâcle, la colonie tchécoslovaque cesse d'exister immédiatement. C'est-à-dire qu'elle est encore active en avril 40, et puis quand les troupes allemandes arrivent, elle passe dans la clandestinité, elle cesse concrètement d'exister. Certains dirigeants partent par exemple vers la Grande-Bretagne. D'autres sont obligés de passer dans la clandestinité, de se cacher, hein, tout simplement. Et puis les associations locales, comme la colonie centrale, donc cessent de fonctionner. Certaines archives sont brûlées pour ne pas être saisies par la Gestapo, et donc il y a une mise en sommeil. Par contre, certains dirigeants qui étaient actifs, hein, ou certains membres d'associations, entrent dans la résistance. Qu'il s'agisse de gens du Sokol, par exemple, du Sokol de Paris, ou bien qu'il s'agisse des communistes qui, eux, n'étaient pas entrés dans la colonie, mais qui vont jouer un rôle également dans la résistance française.
Est-ce que la fédération, la colonie française, renaît après la fin des hostilités, la Seconde Guerre mondiale ?
Alors, elle va pas renaître directement sous ce nom. Il y a une volonté d'anciens acteurs de la colonie tchécoslovaque de la faire renaître, en effet. Donc, une fédération va réapparaître, et ceci dès la fin 1944, début 1945. On se réorganise, mais beaucoup d'immigrants sont partis ils sont partis d'abord dans les années 30. Beaucoup de Slovaques sont partis pendant la Seconde Guerre mondiale parce que existait un État slovaque en théorie indépendant. Et certains dirigeants de la colonie ont tout simplement disparu. L'ancien président a été déporté et mort en déportation, par exemple. Mais il y a cette volonté de la faire renaître. Simplement, les divisions entre les communistes et les autres, les acteurs historiques de la colonie de l'entre-deux-guerres, vont faire que la colonie ne va pas renaître sous cette forme. Une association des originaires de Tchécoslovaquie communiste à partir de 1948 est reprise en main par l'ambassade au moment du passage au communisme en Tchécoslovaquie. Et puis des associations comme le Sokol n'entrent pas dans cette nouvelle fédération et donc restent à l'écart de façon plus isolée.
« C'était l'historien Jean-Philippe Namon au micro de Paul Bauer. Le programme de Radio Prague en langue française se termine. Magdalena Hrozinková vous remercie de votre attention.